À toutes et à tous, je m'appelle Zoé Stib et j'ai intégré cette année l'école doctorale 122 Europe latine, Amérique latine de la Sorbonne Nouvelle en tant que doctorante contractuelle. Je travaille sous la direction de Madame Franco sur la presse pour enfants publiée pendant la guerre civile espagnole, puis pendant les 11 premières années d'après-guerre, donc jusqu'en 1950. Aujourd'hui, je me propose de vous parler de la vision de la vieillesse dans la société franquiste d'après-guerre et des représentations et images qui en sont faites au service d'une idéologie enseignée aux enfants, notamment dans les livres scolaires et dans la presse pour enfants des années 40 et 50. En ce qui concerne la presse pour enfants, il s'agira de publications phalangistes et carnistes, et en ce qui concerne les manuels scolaires, trois éditeurs étaient particulièrement actifs pendant l'époque franquiste, les éditions Hijos de Santiago Rodríguez de Burgos, les éditions Dalmau Carles Pla de Gérone et les éditions Luis Vives de Huesca. Comme tout le monde n'est pas hispaniste, je propose de situer le contexte historique très brièvement pour que chacun puisse bien comprendre dans quel cadre ont été publiées les publications que je vais présenter. Alors, en 1936, l'Espagne vit pour la deuxième fois une expérience républicaine. Le Front populaire gagne les élections en février 36 face à une coalition de partis de droite. Dans un contexte social et politique de très grande tension, s'organise un coup d'État et les soulevés, dont le général Franco, sont persuadés que l'Espagne tomberait très facilement. De son côté, le gouvernement républicain était persuadé que le soulèvement n'était qu'un feu de paille et qu'il ne durerait pas. Donc d'un côté comme de l'autre, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Résultat, le coup d'État manqué de la mi-juillet 1936 se transforme en guerre civile. La guerre dure presque 3 ans. Les franquistes gagnent la guerre et à partir du 1er avril 1939 s'ouvre une période d'après-guerre à la fois extrêmement répressive à l'égard des vaincus et déterminante pour la construction d'un régime franquiste dont l'ambition est de durer dans le temps. Pour ce faire, la propagande est omniprésente, toutes les productions scolaires, culturelles deviennent des produits idéologiques au service de l'appareil franquiste. Tout est contrôlé par le parti unique, qui est la phalange, et par l'Église, donc toute la société est présentée, notamment aux enfants, par une propagande idéologique nationale catholique. Je reviens en 1938, la guerre est toujours en cours et le premier gouvernement franquiste se constitue à Burgos. Le ministre de l'Éducation, Pedro Sainz Rodríguez, annonce ce qui est attendu de et pour la jeunesse. La nouvelle jeunesse doit être éduquée seulement pour Dieu et pour la patrie, dit-il, ce qui résume parfaitement l'idéologie nationale catholique, avec Dieu et la patrie comme piliers fondamentaux. Nous allons nous intéresser en particulier à la nature catholique qui définit cette idéologie en entamant notre première partie que j'ai intitulée « Aider pour s'élever ». Dans les livres scolaires des années 40 et 50, ainsi que dans certaines publications de presse destinées à la jeunesse, se trouvent des questions de morale destinées à guider l'apprenant et le lecteur. Donc je précise que la présence de questions de morale dans les livres scolaires n'est pas propre à la période franquiste. Au XIXe siècle, des contes étaient publiés dans les livres scolaires afin d'enrichir la lecture de l'apprenant, de le divertir et de le moraliser, comme le disait au XIXe siècle un instituteur du nom de Vicente Castro y Legua. Ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que le régime franquiste se réclame d'une idéologie nationale catholique et que les manuels scolaires publiés pendant cette époque en sont le reflet, comme le montre l'ouverture du chapitre sur la morale religieuse d'une encyclopédie de 1946, publiée par les éditions Dalmau Carles. Les bons actes moraux sont l'amour de Dieu, de nos parents, de la patrie. Dans les livres scolaires et dans la presse pour enfants, les questions de morale reprennent certains enseignements présents dans la Bible, tels que l'aide à son prochain et l'aide en particulier aux plus fragiles, dont font partie les personnes âgées. En effet, la Bible ordonne « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard ». Pour que l'enfant identifie la personne âgée dans les illustrations, celle-ci est souvent représentée avec une canne et cette fragilité appelle au sens moral de l'enfant. Dans notre corpus, on retrouve cela à travers une action tout à fait quotidienne qui est l'aide à traverser. Je vous propose ici un extrait d'une encyclopédie de 1941 destinée aux cours préparatoires et publiée, comme l'encyclopédie précédente, par les éditions Dalmau Carles. On voit un enfant aider une personne âgée à traverser dans une leçon intitulée « Les bonnes actions » qui elle-même se trouve dans le chapitre « Notion de morale ». L'enfant prend la personne âgée par le bras et l'aide à traverser en se mettant, lui, du côté des autos. Dans cet exemple et dans tout ce qui suit dans la leçon, on encourage le lecteur à discerner les bonnes des mauvaises actions en posant un regard critique et à réfléchir. Lui, agit-il bien ? L'aide à traverser et plus globalement l'accompagnement des personnes âgées revient régulièrement comme dans ces maximes de bonne éducation présentées dans une encyclopédie de 1952 et publiée par les éditions Luis Vives. Apporte ton soutien et tend la main aux malades et aux vieillards. Dans la même encyclopédie, l'enfant reçoit même des recommandations sur la manière d'aider la personne âgée. Si l'enfant accompagne un vieillard, il lui cède la droite. Sur les trottoirs, il lui cède le côté des maisons. Les livres scolaires encouragent l'enfant à réfléchir sur sa propre morale, donc il y a pédagogiquement, on va dire, des représentations d'enfants qui, eux, n'aident pas et qui se présentent comme des contre-exemples. Dans ce livre scolaire qui s'intitule « El nuevo camarada » de 1947 et publié par les éditions Dalmau Carles, on voit un enfant qui s'appelle Roberto et qui, en plus de donner des personnes, se moque des personnes âgées. Le livre dit « Il est indigne des vieillards car il ne les respecte pas ». Résultat, ses camarades le rejettent. Personne ne veut de l'amitié de Roberto et en plus, il va être isolé de la société puisqu'il ne correspond pas à ses valeurs. On va l'enfermer dans une maison de correction, conclut le livre. Ce livre scolaire est destiné à l'équivalent d'élèves de primaire, donc en principe, la menace est suffisamment traumatisante pour que l'élève se conforme aux valeurs prônées par le livre. Par ailleurs, les bonnes et mauvaises actions sont parfois présentées en miroir, comme dans cette encyclopédie de 1953, publiée par les éditions Dalmau Carles. On voit effectivement deux enfants qui ont des comportements opposés vis-à-vis des personnes âgées, alors tout est fait pour que l'élève s'identifie au personnage qui aide. Aucun élève a priori n'aurait envie de s'identifier ou de devenir cet enfant qui est décrit à droite comme dur de cœur. On a vraiment cette représentation du bien et du mal, caractéristique d'une société franquiste binaire, catholique, traditionnelle et traditionnaliste, et qui est clairement représentée dans un épisode d'une revue hebdomadaire pour enfants qui s'appelle Marabillas, qui est publié par la Phalange, le Parti Unique. L'épisode, publié dans le numéro du 28 novembre 1940, s'appelle « Un ange et un démon », et on voit l'exercice des forces du bien et du mal à travers un ange qui aide une personne en difficulté et le démon qui s'y refuse. Finalement, l'ange a eu bien raison d'aider la personne en question puisqu'il est récompensé par un repas chaud alors que le démon est transi de froid et n'a rien dans le ventre par-dessus le marché. On a donc ici l'élévation par excellence puisqu'un enfant qui aide peut s'identifier à un ange et dans une société catholique peut espérer aller au paradis grâce à ses bonnes actions. Les enfants qui aident et plus généralement qui se conforment aux valeurs morales prônées par le régime sont des éléments qui aideront le régime franquiste à perdurer. Donc dans notre cas précis, la propagande instrumentalise cet altruisme enfantin qui peut être tout à fait sincère sans que cela ne l'empêche de s'inscrire dans un discours de propagande. Je conclue cette première partie sur la photographie que j'avais choisie dans la présentation du sujet. Cette photographie est issue d'un hebdomadaire destiné aux adultes qui s'appelle Photos et qui dédie tout un reportage sur l'évolution de la jeunesse dans son numéro du 21 octobre 1939. Cette photo est très intéressante car y apparaît une sorte d'idéal avec l'enfant qui aide volontiers la personne âgée. La bienveillance de l'enfant est montrée à travers un contact avec les mains. Il marche à la même vitesse, donc on est vraiment dans une démarche altruiste d'accompagnement. Cependant, cette bonne action est signée car l'enfant n'est pas neutre. C'est un fletcha, c'est-à-dire un membre de la jeunesse masculine franquiste. On le reconnaît et c'est fait exprès bien sûr sur la photo. Il porte le béret rouge carliste, la chemise bleue phalangiste de rigueur et on distingue les flèches et le joug sur sa ceinture, l'un des symboles de l'appareil franquiste. Cet enfant porte un fusil quasiment aussi grand que lui et pourtant au moment où il publie cette revue, la guerre est officiellement terminée depuis plusieurs mois. On est dans une période marquée non seulement par la reconstruction d'après-guerre et la construction d'un nouveau régime, mais aussi par la destruction de tout ce qui existait avant la guerre et qui n'est pas conforme aux valeurs de ce même régime. Sur cette photo, on peut voir au premier abord un enfant aider une personne âgée, mais peut-être aussi la métaphore d'une continuité générationnelle avec la personne âgée qui va laisser sa place à l'enfant, franquiste en devenir et défenseur des valeurs de la Nouvelle-Espagne. Cela nous mène à la deuxième partie de la présentation que j'ai intitulée « Transmettre pour construire ». Le verbe « construire » est intéressant car il peut non seulement renvoyer à la construction de l'individu, dans notre cas l'enfant, mais aussi à la construction du régime franquiste et de la société qui doit en être le reflet dans l'Espagne d'après-guerre. Dans la volonté du régime de s'installer durablement, ces constructions, donc individuelles et collectives, sont intimement liées et le régime met à profit un lieu commun de l'imaginaire collectif, c'est-à-dire la figure du vieillard, comme puits de science et de transmission. Le livre scolaire « Así quiero ser, je veux être ainsi » date de 1940 et publié par les éditions Hijos de Santiago Rodríguez et décrit de très nombreux aspects de la vie sociale, politique, économique dans l'Espagne d'immédiate après-guerre, tout en dispensant un certain nombre de conseils. Dans ce livre, un chapitre entier est consacré à la vieillesse et présente les personnes âgées comme les chefs, les juges, les conseillers, les hiérarques. Il faut s'en inspirer, la personne âgée est une leçon vivante dont la jeunesse doit apprendre, dit le livre, avant de résumer la vision officielle de l'Espagne et donc du régime. L'Espagne voit en la vieillesse la riche veine de la tradition. La tradition est celle véhiculée par la propagande, c'est-à-dire l'image d'une Espagne impériale, héritière des rois catholiques et de Charles Quint, une Espagne mythique. Dans un chapitre antérieur consacré à la culture, la pensée finale que doit intégrer l'enfant est la suivante. Je ne dois pas apprendre seulement dans les livres, mais dans le temple de Dieu, dans l'exemple des personnes morales et dans les conseils des anciens. La personne âgée qui dispense ses bons conseils à la jeunesse peut être issue du cercle familial, mais ce n'est pas systématique. On va voir ça dans deux exemples issus de la presse de guerre pour enfants. La revue Pelayos est une revue carliste. Donc pendant la guerre, les carlistes faisaient partie du côté nationaliste et représentaient des monarchistes traditionnalistes catholiques. On voit sur cette couverture du 16 mai 1937 une représentation du cadre familial dans lequel le grand-père apparaît comme un vecteur central de transmission entre un passé supposément glorieux, en tout cas présenté comme tel par la propagande, et la future Espagne franquiste représentée par les enfants. On peut imaginer que ce grand-père raconte ses exploits militaires pendant la Troisième Guerre carliste à ses petits-enfants pour les inspirer et les éduquer dans le giron carliste. Le béret rouge, symbole carliste puis franquiste, apparaît comme le lien entre le passé, le présent et le futur. Cette transmission est essentielle car l'Espagne est en guerre et qu'avant d'être des enfants, ils sont respectivement futurs soldats et futures mères, porteurs d'un héritage familial culturel, politique et militaire. On peut voir à travers ce geste affectueux du grand-père qui tient ses petits-enfants par les épaules, en les entourant, une métaphore de l'embrigadement de la jeunesse pendant la guerre. Les enfants sont maintenus physiquement et idéologiquement dans un cadre imposé. Je vous propose maintenant un épisode publié dans le premier numéro de la revue Flechas y Pelayos du 11 décembre 1938. Flechas y Pelayos est issu de la fusion de la revue phalangiste Flecha et de la revue carliste Pelayos qu'on vient de voir. C'est la raison pour laquelle vous voyez sur la couverture des enfants portant à gauche la chemise bleue phalangiste et à droite le béret rouge carliste. Dans ce numéro, l'une des héroïnes de la revue, qui s'appelle Mari Pepa, raconte sa rencontre avec une personne âgée qu'elle appelle Viejecita, une petite vieille, qui déverse un sac rempli de papiers annotés par un vieillard qui vient de disparaître et qu'elle décrit comme fou. La vieille dame se défait du sac et de son contenu, et Mari Pepa et son frère se rendent compte que ce ne sont pas des papiers écrits par un fou, mais par celui que l'héroïne qualifie de sage, le plus sage du monde. Elle récupère les papiers épars et en fait un livre qu'elle décrit comme le livre le plus intéressant du monde. Mari Pepa veut permettre la diffusion de tout ce savoir et décide donc, dit-elle en s'adressant au lecteur de Flechas y Pelayos, d'ouvrir dans la revue cette nouvelle rubrique pour répondre à toutes vos questions à travers le grand savoir du livre. Dans cet exemple, la transmission se fait en dehors du cadre familial et touche un public beaucoup plus large mais présenté comme privilégié par l'héroïne. En effet, seuls les lecteurs de Flechas y Pelayos auront accès à cet immense savoir. Ils sont présentés comme étant les seuls à en être dignes. C'est le premier numéro de la revue, il faut continuer à la lire pour connaître tout le savoir laissé par le vieux sage, et c'est ainsi présenté comme bénéfique à tout le monde, au lecteur et bien sûr à la phalange, qui par ce procédé fidélise habilement le jeune lecteur. On est dans une autre nature de transmission que celle du grand-père, avec ici l'image du vieux sage qui vit en ermite et de la jeune héroïne qui veut transmettre son savoir au plus grand nombre. Mais ce qui relie nos deux exemples, c'est finalement l'omniprésence de l'appareil franquiste avec ses symboles et ses institutions. Dans son récit, Mari Pepa dit vouloir donner les papiers qu'elle n'a pas encore lus à l'Auxilio Social. L'Auxilio Social est une organisation supposément humanitaire, née pendant la guerre et contrôlée par la section féminine de la phalange. C'est notamment cette organisation qui gérait les orphelinats, mais en réalité c'est le régime franquiste qui créait des orphelins en arrachant les enfants à leur famille. On est là dans une anti-transmission, puisque le régime détruisait les liens familiaux, les identités des enfants et les enfants eux-mêmes, dès lors que leur cadre familial était considéré comme impur par le régime, rendant impossible par conséquent toute forme de transmission. Avec la question de l'anti-transmission se pose aussi celle des anti-valeurs à travers l'image de la vieillesse. Je propose une courte troisième partie que j'ai intitulée « La vieillesse comme symbole de dégénérescence », avec un exemple qui illustre une autre vision des personnes âgées. Dans les deux parties précédentes, on a vu que la personne âgée était présentée comme un être diminué physiquement, mais qui permettait aux enfants de s'élever moralement grâce à l'aide apportée et comme source de savoir dont la jeunesse devait s'inspirer. On a vu donc une complémentarité, des échanges de bons procédés qui servent tous finalement l'individu, la société et le régime. Dans la couverture de la revue phalangiste Flecha Arriba España du 1er janvier 1938, le vieillard placé au centre illustre cette fois des stéréotypes négatifs entourant la vieillesse avec la maladie et un mauvais état général. Ce personnage-là est particulier parce que sa vieillesse est associée à la fin d'une époque, une époque malade, fatiguée, qui est celle de la République et qui doit disparaître au profit de la nouvelle année pleine de vie, marquée par les symboles franquistes avec les deux enfants. Le personnage est à terre, symbolisant les forces républicaines défaites, même si la guerre n'est pas terminée et, comme on peut le voir, ses outils, qui sont la faucille et le marteau, symbole rouge par excellence, sont brisés. Son uniforme est justement informe et mal rapiécé. Il représente l'année 1937 qui se termine et avec elle, selon la propagande nationaliste, l'opposition des Rouges. Contrairement aux personnes âgées qui sont citées en exemple pour la transmission des valeurs, celle-ci incarne un anti-exemple puisqu'elle représente des anti-valeurs aux yeux du régime. On est dans une vision antagonique entre l'image de la vieillesse qui annonce la fin d'une époque présentée comme sombre et malade et l'image des enfants qui annoncent un renouveau, un futur glorieux. Par ailleurs, la propagande nationaliste de guerre et ensuite la propagande franquiste d'après-guerre ont très régulièrement recours à l'image du soleil qui se lève et à une renaissance, une résurrection de l'Espagne. Les deux enfants qui encadrent le vieillard ne le respectent pas, ce qui est normalement condamné dans les livres scolaires, mais pas dans ce cas puisque celui dont ils se moquent représente ceux que Franco avait appelés les éternels dissidents, les rancuniers, les égoïstes, dans son discours de victoire du 19 mai 1939. Ces enfants, nous l'avons vu, sont des membres des jeunesses franquistes comme le montrent leurs uniformes et ils brandissent le drapeau espagnol d'avant la République. C'est donc la promesse d'une nouvelle ère, on dit adieu à la République et on accueille la nouvelle Espagne de Franco. Pour conclure, la vieillesse est représentée de différentes manières dans les livres scolaires et dans la presse pour enfants de l'époque, mais le point commun de ces différentes visions est qu'elles servent toutes la propagande et l'idéologie du régime. Les enfants aidant leurs prochains montrent l'image d'une Espagne morale et solidaire, aspect essentiel à l'heure d'une Espagne présentée comme unie, grande, libre, una grande libre. La vieillesse est instrumentalisée pour mettre en relief les valeurs morales supposées des membres des jeunesses franquistes. De plus, les transmissions intrafamiliales de certaines valeurs assurent au régime que son message est transmis, même dans un environnement privé et supposément préservé. Cela montre aussi que tous les Espagnols, les plus jeunes comme les plus âgés, peuvent et doivent contribuer à la construction de la nouvelle Espagne. On observe également un double discours, puisque les messages de belle moralité présents dans les livres scolaires ne concernent en réalité qu'une partie de la population. Il ne s'agit pas d'aider son prochain, dans le sens universel du terme, mais ce que la propagande appelle les bons Espagnols, et toutes les personnes âgées ne sont pas considérées comme respectables et dignes qu'on les traite avec déférence. Tout dépendait de la valeur humaine que le régime franquiste voulait bien accorder à chacun.